Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
En cette fin d'année pastorale, nous sommes très heureux de retrouver notre évêque, Monseigneur Marc Ayé. Bonjour.
Bonjour.
Il y a un petit moment qu'on vous avait pas reçu dans le cadre de cette émission pour les auditeurs de Radio Lapourdie et de Radio Présence. Tout simplement, pour commencer, vous rentrez de Rome, Monseigneur. Nous enregistrons cette émission le 7 juin et vous étiez la semaine dernière à Rome.
Et oui, nous étions allés pour le jubilé des prêtres, puisque le pape François, dans le cadre de l'année de la miséricorde, a voulu organiser pour la fête du Sacré-Cœur, qui avait lieu donc vendredi 3 juin, la démarche jubilaire des prêtres. Nous étions quand même une petite délégation du diocèse, puisque nous étions 11, 10 prêtres avec moi, et qui avons pu participer à l'intégralité de ce jubilé, qui avait été précédé pour nous par une ou deux journées de découverte de Rome. Comme on avait prévu 30 places d'avion quand on avait lancé le projet au premier trimestre, il a fallu combler les places vides par des laïcs qui nous ont aussi accompagnés. C'était aussi assez sympathique de passer le mardi et le mercredi avec ces laïcs et de célébrer la messe donc à Sainte-Marie-Majeure pour commencer le 31 mai, jour de la visitation. Donc ça tombait très bien d'honorer la Vierge Marie qui est vénérée dans cette belle icône Salus Populi Romani, salut du peuple romain, que le pape François vient visiter régulièrement quand il part en voyage apostolique. Il vient confier son voyage à la Vierge, à Sainte-Marie-Majeure, en déposant un bouquet, et il vient rendre grâce après chacun de ses voyages apostoliques devant cette belle icône. Donc nous avons pu célébrer la messe là, ensemble. Le mercredi matin, c'était aussi un grand jour, parce que nous avions la messe sur la tombe de Saint Jean-Paul II, dans la basilique Saint-Pierre du Vatican, et ensuite l'audience avec le Saint-Père, et donc notre groupe de prêtres était bien situé sur ce qu'on appelle le riparto special, c'est-à-dire sur le sagrado, au même plan que le pape, là, et donc à quelques 20 mètres, 30 mètres de lui. Et le jubilé commençait par une première démarche dans l'église Saint-Louis des Français, le mercredi soir, par une conférence sur la miséricorde qui était donnée par Mgr Vincent Dolman, évêque auxiliaire de Strasbourg, devant les prêtres français qui étaient disponibles. Nous étions 100-150 à ce moment-là, et suivi d'une messe magnifiquement animée par les chapelains de Saint-Louis des Français, dont un prêtre de notre diocèse qui n'est autre que l'abbé Jacques de Mesmet, qui est d'ailleurs responsable de la liturgie cette année à Saint-Louis des Français. Et c'était une magnifique messe qu'ils ont servi comme des séminaristes, chantés à trois voix. Enfin bon, c'était très beau et on était très heureux de retrouver aussi notre cher Jacques, qui termine donc ses deux années de licence de théologie spirituelle avant de revenir dans le diocèse pour une nouvelle responsabilité pastorale. Et puis enfin, l'apothéose, pas l'apothéose, mais la grande journée du jeudi, c'était une journée de récollection donnée par le Saint-Père. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, comme une journée de retraite, donc les prêtres, qui étaient à peu près 6000 du monde entier, étaient répartis dans trois grandes basiliques majeures. Les prêtres au service de la curie romaine étaient dans la basilique de Saint-Jean de Latran, la cathédrale du pape. Les prêtres italiens à Sainte-Marie-Majeure, et tous les autres nationalités, à Saint-Paul-en-les-Murs, où nous étions bien sûr quant à nous. Et donc le pape a donné trois causeries à 10h, midi et 16h dans chacune des basiliques, sachant que toutes les autres, on pouvait les suivre en direct par des grands écrans. Donc on a eu trois interventions d'une heure du Saint-Père sur le sacerdoce dans le cadre de la miséricorde, et c'était très beau. Hein. Je crois qu'on était très édifiés. C'était vraiment une retraite, c'était un prédicateur d'exercice spirituel qui parlait aux prêtres avec une belle paternité, et nous invitant évidemment à recentrer notre ministère sur le cœur du cœur, hein, notre intimité avec le Seigneur, la conscience que nous avons de notre misère de pécheur, l'expérience que nous faisons nous-mêmes de la miséricorde pour devenir signe et instrument de la miséricorde pour le peuple qui nous est confié. Et c'était vraiment avec beaucoup d'exemples, d'anecdotes, d'humour, d'anecdotes aussi tirées de la vie des saints prêtres, des saints confesseurs, car il a beaucoup axé sur le sacrement de la confession. Et de l'avis unanime, on a été très touchés, très, très édifiés par cette retraite. Et puis le vendredi, bah, c'était le jubilé des prêtres sur la place Saint-Pierre avec la solennité du Sacré-Cœur.
Un beau temps d'église avec les prêtres du monde entier.
Un très beau temps d'église avec des prêtres du monde entier qu'on rencontrait partout, ici ou là. Et puis aussi des prêtres français qu'on a pu rencontrer, souvent jeunes. Hein. C'est plutôt des jeunes prêtres qui ont participé à ce jubilé du point de vue français.
Puisqu'on parle des jeunes prêtres, parlons des ordinations qui se déroulent en ce moment dans le diocèse. Il y a déjà eu 3 ordinations diaconales à la Pau, c'était pour la fête de l'Ascension. Et puis il y aura 2 ordinations presbytérales le 26 juin.
Voilà, donc ce qui est beau, c'est que parmi ces 5 ordinants, je dirais les 3 diaconales et les 2 sacerdotales, il y en a 3 qui ont été de cette première année de propédeutique, lorsque la propédeutique a ouvert dans le diocèse en 2009. Donc c'est les premiers fruits, on peut dire, de la formation du séminaire diocésain de Bayonne, rouvert en 2009. Voilà, 3 diacres qui ont été ordonnés le jour de l'Ascension, dont un poursuivra son année diaconale et sa première année de sacerdoce à Rome, en suivant une licence canonique en théologie dogmatique à l'Université de la Sainte-Croix, donc Louis-Léopold Frécon, et les 2 autres qui feront leur année diaconale en insertion pastorale, Louis-Marie Dupin au Christ Sauveur de Pau, et Sébastien Baudry à la Trinité d'Oloron-Oloron, ayant une semaine diaconale chaque mois à Toulouse, avec tous les diacres de la région, ce qui est aussi un beau temps de formation, tout à fait apprécié par les diacres qui ont suivi cette année diaconale, parce qu'il y a un partage avec des diacres de tous les diocèses de la région.
Alors le 26 juin, vous allez ordonner 2 nouveaux prêtres pour notre diocèse de Bayonne-Escaret et Oloron.
Voilà, Paul Dean Van Wan, qui lui aussi fait partie de la première propédeutique de 2009, vietnamien qui est bien acculturé dans le diocèse maintenant, hein, qui vient de faire un temps pastoral à son stage diaconal à Oloron, et puis Sange Francu, hein, qui est sultan d'origine, lui de Trois-Villes, par sa mère, et qui vient de faire son année diaconale à la paroisse d'Orthès. Tous les 2 vont donc être ordonnés prêtres pour le service du diocèse, donc le 26 juin à 16h à la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne, où j'espère ils seront entourés, accompagnés, non seulement par le peuple de Dieu qui les a d'une certaine manière accompagnés pendant toutes ces années et enfantés, je pense à ceux de Cambo, parce qu'ils ont fait leur premier stage à Cambo, Orthès et Oloron, bien sûr, qui seront certainement très bien représentés, et puis sans doute par beaucoup de prêtres de notre presbytérium qui ont à cœur bien d'accueillir dans la fraternité sacerdotale ces 2 jeunes prêtres qui ont évidemment encore à faire leurs armes.
Alors je vous demande pas où ils seront nommés.
Alors ce sera la surprise, hein, je pense que je l'annoncerai évidemment comme chaque année à la fin de l'ordination.
Alors c'est la période aussi des nominations, est-ce que c'est un casse-tête pour l'évêque de trouver des prêtres pour les paroisses qui en manquent?
Alors c'est toujours un casse-tête, pas seulement pour l'évêque, parce que vous savez bien que l'évêque le fait pas tout seul, il le fait avec le conseil épiscopal, on commence à y réfléchir dès le mois de janvier. Ça devient un casse-tête dans notre diocèse, ben vous savez bien pourquoi, parce que les prêtres vieillissent, fatiguent, ce qui est bien logique, beaucoup ben, se retirent ou demandent à devenir prêtres auxiliaires parce qu'ils ont atteint la limite d'âge, même si quelques-uns qui sont encore assez vaillants acceptent de proroger de prolonger leur charge de curé au-delà de 75 ans, d'année en année, hein. C'est un casse-tête, mais c'est une chose très importante, les nominations, qui, au fond, est le fruit d'une alchimie délicate, où il faut à la fois tenir compte des souhaits légitimes des prêtres, hein, auxquels je crois qu'on est très attentif, des charismes respectifs aussi, parce que il y en a qui ont un charisme pour tel ou tel. Par exemple, un prêtre peut me dire moi, je suis davantage à l'aise dans un milieu populaire. J'y suis par mon expérience plus orienté. Bon, bah, il faut tenir compte aussi de ces demandes. Et puis la juste répartition du clergé et les nécessités pastorales, hein, qui font que bah oui, mais il faut qu'on ait là un prêtre chevronné pour telle paroisse parce que il y a un curé qui s'en va à la retraite ou qui après un certain nombre d'années passées au service de cette paroisse a besoin aussi de se renouveler et de relever un nouveau défi missionnaire car il en a encore les forces, hein, et l'âge. Donc c'est une période qui est assez délicate Mais je crois qu'on a réussi, on réussit encore notre diocèse, grâce, il faut quand même le dire, à la disponibilité des prêtres, généralement, qui ne rechignent pas devant la tâche, eh bien on arrive à pourvoir aux nécessités des paroisses, même s'il faut compter avec l'apport de prêtres de l'extérieur, et là encore, on doit faire appel à des prêtres africains en particulier, qui viendront... pour un temps de ministère Fidei Donum, pour des contrats de 3 ans renouvelables.
Alors il y a eu un débat autour du diaconat féminin avec une idée qui avait été lancée par le pape finalement, on peut dire ça comme alors, ça, devant des religieuses.
Alors c'est là où on voit que les médias s'emballent assez vite et que certains vont un peu trop vite en besogne. Le pape n'a pas parlé d'ordination des diacres. La question a été posée par 2 religieuses. D'ailleurs, je me suis laissé dire que l'ensemble des autres religieuses étaient très surprises de cette question parce que ça n'avait pas été concerté ensemble. Et le pape a répondu à la jésuite d'une manière assez subtile et qui n'a jamais d'ailleurs été de l'ordre de « oui, il faudrait ordonner des femmes diacres ». Il a seulement parlé de l'histoire, il a seulement rappelé que dans les premiers siècles, à Rome en particulier, le diacre était chargé, comme vous le savez sans doute, du baptême qui se faisait à l'époque par immersion. Donc, dans le plus simple appareil. Et en sortant de l'eau, il y avait l'onction sur tout le corps, qui était accomplie généralement par un diacre pour l'immersion et un prêtre pour l'onction. Quand il s'agissait de femmes, c'était des femmes qui étaient députées à ce service, ce que l'on peut comprendre aisément. Et on les appelait des diaconesses, de même que des femmes qui avaient un ministère de service des pauvres, qui étaient aussi appelées des diaconesses. Généralement, historiquement, quand on regarde bien l'histoire de manière précise, on sait que ces femmes n'étaient pas ordonnées diacres, même si elles étaient appelées diaconesses, parce qu'elles accomplissaient des services qui sont normalement accomplis par des diacres. Comme par exemple chez les chartreux, chez les chartreusines, donc chez les femmes de l'ordre chartreux, il y avait des diaconesses, c'est-à-dire une sœur qui chantait l'évangile. Ça ne voulait pas dire pourtant qu'elle était ordonnée diacre. Et le pape s'est contenté de répondre à cette question un peu insistante de 2 membres de cette rencontre avec les supérieurs majeurs. Il a seulement dit, ben voilà, il y avait des diaconesses, eh bien il faudrait faire une commission pour mieux préciser quelle était la fonction et le statut de ces diaconesses. Il n'a jamais dit qu'il fallait ordonner des femmes diacres. Alors après, les médias vont vite en besogne. Ça y est, le pape ouvre le diaconat aux femmes, et pourquoi pas la prêtrise, alors que l'on sait que cette chose-là a été clairement et définitivement réglée, en tout cas pour ce qui est de la prêtrise, par Saint Jean-Paul II, et que le pape, dans une mise au point postérieure, a précisé qu'il n'était pas question de changer ce qui était définitif dans l'Église.
Pour terminer, Monseigneur Hayet, un mot sur l'agrandissement du séminaire. La livraison va se faire assez vite maintenant.
Alors, normalement, elle va se faire dans les temps, puisque fin juin, les travaux d'agrandissement du séminaire seront terminés. Et c'est heureux, puisqu'en septembre prochain, le groupe des séminaristes sera de plus de 20. Et donc, l'ancien séminaire, enfin, la première partie du séminaire, c'est-à-dire le couvent des Capucins, devient trop petit. Et ça va donner un peu plus d'espace aussi pour les cours, pour les activités, là où c'était quand même devenu très étroit dans le couvent des Capucins.
Et comment peut-on aider pour notamment le financement, parce que ça coûte de l'argent?
Alors c'est vrai que ça coûte de l'argent, et c'est pourquoi nous faisons un appel au mécénat d'entreprise, mais aussi aux donateurs, la générosité des donateurs. Je crois qu'on profitera aussi de l'ordination pour relancer cet appel aux dons, et c'est vrai que je pense que un projet comme celui-là intéresse profondément les fidèles, parce que c'est quand même l'avenir de notre diocèse, que la relève sacerdotale en particulier, et beaucoup d'autres choses aussi, mais en particulier la relève sacerdotale, et je pense que beaucoup de fidèles qui seront intéressés à apporter leur contribution à la formation des futurs prêtres par un don pour cet agrandissement du séminaire qui en effet coûte de l'argent au diocèse.
Radio La Pour Dire à Tia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Nous Nous retrouvons Monseigneur Marc Caillé. Alors, les affaires de pédophilie ont marqué la vie de l'Église tout récemment. Vous-même, vous avez été confronté au déballage, j'allais dire, hein, avec les médias qui vous ont un peu obligé finalement à mettre sur le devant de la scène des cas de pédophilie qui sont passés dans notre diocèse. Alors, où en est l'Église de France par rapport à cette situation des prêtres qui abusent d'enfants?
Alors, il faut d'abord préciser que l'Église de France n'a pas attendu ces crises médiatiques, ces tempêtes médiatiques de ces derniers mois pour prendre conscience de la gravité de ces actes, en particulier de leurs effets destructeurs dans la vie, la croissance, la croissance de la personnalité des enfants qui ont été victimes de ces actes gravement répréhensibles. Puisque vous savez que dès le début des années 2000, la France s'est attelée à cette question et a d'ailleurs produit un certain nombre de documents, en particulier à titre éducatif, pour les éducateurs, les prêtres, les catéchistes, tous ceux qui sont en contact avec des enfants de moins de 15 ans. Donc il y a eu quand même tout un travail d'information et de prévention sur la question de la pédophilie qui était certainement mal connue dans les décennies qui ont précédé. C'était vrai dans l'Église, mais c'était vrai aussi dans toutes les institutions sociales hein, de notre société française. L'éducation nationale, la jeunesse et les sports, qu'il n'y a pas d'institutions qui ne soient pas touchées par ce phénomène. Et comme vous le savez, la très grande majorité des actes pédophiles est perpétrée dans le cadre familial par des hommes mariés. Hein, donc il faut aussi savoir ça. Et bon. Et c'est vrai qu'on sort progressivement depuis le début des années 2000, parce qu'on a mieux pris conscience des effets au plan psychologique, au plan moral, au plan de la formation de la personnalité d'un enfant, parce que des études très nombreuses ont été faites, et puis des victimes ont pu enfin parler davantage, eh bien, c'est vrai qu'on a pris conscience depuis le début des années 2000, un peu partout dans la société, de la nécessité de non seulement de prévenir, mais de sanctionner et de punir. Par, en particulier du côté de l'Église, par une vraie collaboration avec la justice. Il est bien évident que si la justice ne suffit pas à guérir les blessures, la justice est quand même une condition sine qua non pour aider hein, à la reconstruction et à la réparation nécessaire de ces actes répréhensibles.
La Conférence des évêques de France vient de mettre en place une commission. Déjà lors de l'Assemblée plénière à Lourdes au mois d'avril, on avait demandé à tous les évêques finalement de mettre des structures d'écoute pour les victimes dans chaque diocèse ou dans chaque province, c'est ça?
Alors disons qu'à la dernière Assemblée plénière, comme nous étions en plein sous les feux des médias, en particulier avec les affaires du diocèse de Lyon, dans cette Assemblée qui s'est tenue à huis clos, hein, fin mars, eh bien nous avons beaucoup partagé sur cette question, même si ça n'a pas été le seul sujet évidemment de notre Assemblée plénière, et on a eu le témoignage en particulier de l'évêque d'Orléans, Mgr Jacques Blacard, qui nous a parlé de l'expérience d'une cellule d'écoute des victimes qui s'était mise en place dans le diocèse d'Orléans. Bon, ça nous a beaucoup intéressé évidemment, et après quelques échanges en assemblée, le conseil permanent s'est réuni par la suite, et comme vous le savez, le 12 avril a publié un certain nombre de mesures assez importantes pour prévenir et d'une certaine manière guérir aussi ces cas de pédophilie, en particulier en demandant que, à l'échelle d'une province ou d'une diocèse selon, soient mises en place des cellules d'accueil et d'écoute des victimes pour entendre vraiment ces victimes, pour mieux prendre conscience et puis mieux les assurer de la conscience que nous avons du drame que ça représente pour eux. Et ensuite, il y a eu la décision de constituer une commission nationale d'expertise indépendante sur la pédophilie qui aura pour rôle de donner des avis aux évêques diocésains qui le demanderont sur ce qu'il convient de faire avec des prêtres qui ont été accusés d'actes pédophiles ou bien parce que le jugement est en cours ou bien parce qu'ils ont été jugés, et qu'est-ce qu'on doit faire, quelle doit être leur situation dans l'Église, eu égard évidemment aux attendus des jugements par lesquels ils sont passés.
Vous allez consulter ce conseil si vous en avez besoin.
Et évidemment, hein, si nous en avons, si le cas se présente, il est évident qu'on pourra consulter cette commission nationale d'experts. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait une nécessité actuellement dans le diocèse, mais ça pourrait. Par contre, ce que nous allons faire très prochainement, donc j'ai déjà pris un certain nombre de contacts à un certain nombre de personnes qui ont donné leur accord, nous allons mettre en place une cellule d'accueil et d'écoute au niveau du diocèse. Après en avoir parlé avec les autres évêques en province, il nous a semblé qu'il était en effet préférable que nous fassions, que nous mettions en place de manière diocésaine et donc plus locale et donc plus proche des victimes ces cellules d'écoute. Bien sûr que j'ai été moi personnellement rejoint par des victimes par courrier ou par donc avec la possibilité même de les rencontrer personnellement, mais je pense que c'est important qu'il y ait aussi une cellule composée de gens compétents, médecins, psychologues, juristes, aussi peut-être des personnes qui ont été elles-mêmes victimes et qui se sont reconstruites de manière à ce que, ou des parents qui ont été touchés dans leur famille par des actes répréhensibles, de manière à ce que nous ayons des gens qui soient suffisamment au fait de cette expérience pour pouvoir entendre avec profit les personnes qui ont été victimes de ces actes.
Il semble qu'aujourd'hui l'Église mette vraiment les victimes au cœur et leur redonne finalement une place.
Je crois que c'est très important en effet que l'Église, comme toutes les autres institutions, mette au cœur les victimes, hein, et soit d'abord là pour défendre les victimes et non pas pour défendre l'institution. Hein. Peut-être que l'omerta qui a été d'ailleurs généralisée, pas seulement dans l'Église, hein, je crois qu'il ne faut pas focaliser sur l'Église, même si c'est vrai que dans l'inconscient collectif, on peut attendre davantage d'un prêtre, et on met davantage encore sa confiance dans un prêtre, parce que c'est l'homme du sacré, c'est l'homme de la confidence, hein, c'est l'homme de la confession. Donc c'est vrai que c'est plus scandaleux, généralement, dans l'opinion publique. Mais c'est vrai qu'il est très important qu'on reprenne conscience qu'on n'est pas là pour défendre une institution, on est là pour être dans la transparence, au contraire de ce côté-là, et assumer toutes nos responsabilités, mais qu'il faut vraiment d'abord prendre en compte la victime qui, du fait qu'elle était souvent réduite au silence ou qu'elle se réduisait elle-même au silence, ne permettait pas toujours, hein, il y a plusieurs décennies, de prendre conscience, de comprendre le drame qui était vécu par elle.
Alors, le 4 juin dernier, le pape François a publié un motu proprio qui met les évêques devant leurs responsabilités.
Absolument. Hein, il n'est pas une question, bien sûr, de demander aux évêques de rendre compte pour des actes qu'ils n'ont pas commis. Et c'est sûr qu'une certaine manière, ils ne sont pas responsables de tout ce que font les prêtres de leur diocèse. Mais un manque de vigilance, une négligence dans ce domaine, eh bien, peut en effet engager leur responsabilité. C'est pourquoi ce motu proprio, comme une mère affectueuse, que le pape François a publié le lendemain de la solennité du Sacré-Cœur, eh bien, précise qu'un évêque qui aurait commis des négligences graves dans ce domaine, en n'étant pas assez prudent par rapport à un prêtre qui pourrait être accusé d'actes pédophiles, eh bien, pourrait être soumis à une procédure de révocation, dans laquelle il aurait évidemment à se défendre, bien sûr, hein, à travers un procès canonique, mais qui pourrait aller jusqu'à une révocation, et ce qui est bien logique, c'est une manière de mettre ceux qui exercent une responsabilité dans l'Église sur le troupeau, qui est précisément une responsabilité de vigilance, un évêque veut dire veiller sur, eh bien, face à leur responsabilité, et pour nous, c'est aussi une manière d'être plus attentif dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, parce que il n'y a pas que la pédophilie sur lesquelles nous ayons une vigilance particulière à exercer.
Radio Lapourdi Iratia 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Nous retrouvons Mgr Marc Caillé. Nous allons parler maintenant du forum Communion et Évangélisation qui s'est déroulé à Pau du 20 au 22 mai. Alors Mgr Caillé, quels sont pour vous les moments forts qui vous ont marqué, les moments qui vous ont marqué pendant ces 3 jours à Pau?
Alors écoutez, il y a eu plusieurs moments forts. Hein. J'allais dire que ce forum Communion et Évangélisation qui s'est tenu depuis le vendredi soir 20 mai jusqu'au dimanche après-midi 22 mai, a été marqué par une succession de moments forts. Déjà le premier moment du vendredi soir, avec un temps d'adoration pour fonder la mission dans une intimité avec le Seigneur, avec une centaine de participants déjà, a été un premier moment fort à mon avis, plus intérieur, peut-être plus moins spectaculaire. Ensuite, il y a eu des conférences assez intéressantes et qui donnent à réfléchir de Mgr Ray sur les défis de l'évangélisation dans une société sécularisée, donc en définissant à la fois les défis, puis les piliers ou les fondamentaux d'une évangélisation face à ces défis et des dynamismes à mettre en œuvre pour que ces défis soient effectivement relevés dans le contexte sécularisé d'aujourd'hui. La conférence aussi de Mgr Léonard le dimanche matin sur miséricorde et pastorale familiale, parlant d'expérience, bon, un pasteur qui a 25 ans d'épiscopat derrière lui, qui a été touché au cours de son ministère par des initiatives prises au niveau de la pastorale familiale dans ses diocèses de Namur puis de Malines-Bruxelles, qui l'ont donné à toucher en effet la miséricorde de Dieu dans bien des blessures de la vie familiale. C'était assez émouvant. Les témoignages aussi du père René Luc, qui est plus davantage connu dans notre diocèse parce qu'il a eu l'occasion de venir à plusieurs reprises, de sa conversion, lui qui a été élevé par un truand et qui est de père inconnu et qui s'est converti. Hein, celui du père Marie-Michel, qui est le cofondateur de Jeunesse Lumière avec Daniel Ange et qui a fondé un carmel apostolique qui s'appelle le carmel de la Vierge missionnaire du côté de Valence. Et qui a donné un beau témoignage de sa propre conversion, lui qui était plutôt un hippie des années 70, partant à Katmandou, et qui fait une conversion assez fulgurante avec un groupe de prière mariale à Fatima. Bon, bref, et en plus raconté avec un humour assez fracassant. Les temps forts aussi qu'on peut nommer, ce sont les tables rondes. Table ronde sur le thème qui était paroisse en mission, c'est-à-dire à la fois une table ronde sur des missions paroissiales, des initiatives missionnaires en paroisse, la deuxième table ronde, et puis la troisième table ronde du dimanche sur le rapport de la famille et de la pastorale familiale avec la mission. Moi j'ai été très frappé par ces intervenants qui étaient, à part Palavra Viva que nous connaissons bien ici et qui est une communauté nouvelle, mais qui n'étaient pas nécessairement issus de communautés nouvelles. C'était des prêtres diocésains ou des fidèles de base qui exprimaient, partageaient avec beaucoup de modestie d'ailleurs, et sans prétendre nous apporter des recettes miracles, que d'ailleurs personne n'attendait, partageaient des expériences qui avaient porté du fruit, qui peuvent en porter aussi dans d'autres contextes comme le nôtre, mais qui ne se voulait pas être une espèce de manière conquérante avec laquelle on aborde la question missionnaire. Je pense à ce prêtre diocésain de Périgueux qui est curé d'une paroisse rurale, 16 000 habitants, donc on imagine assez vaste, avec beaucoup de villages, et qui a mis en place les cellules paroissiales d'évangélisation, et puis qui a remué un peu sa communauté paroissiale par rapport à l'annonce de l'évangile à ceux qui ne se sentent plus concernés par nos assemblées. Je pense aussi qu'il avait mis aussi en place, avec d'autres prêtres diocésains, des missions de prêtres dans les paroisses. 12 prêtres qui montent une mission dans la paroisse d'un confrère pendant 8 jours. Bon, occasion de vivre un temps de communion presbytérale avec des sensibilités différentes et puis d'être unis dans un acte d'évangélisation directe. Voilà, des choses qui sont, si vous voulez, assez basiques et qui se font à nos portes et qui peuvent donner à réfléchir dans nos paroisses. Puis enfin, deux grands temps forts quand même, qui ont rassemblé le plus de monde, c'est après un temps d'évangélisation deux par deux dans les rues du centre-ville, qui a été un moment de rencontre avec le tout venant tout à fait sympathique, auquel j'ai évidemment participé, comme les autres évêques qui étaient avec moi, mais aussi la veillée du soir à Saint-Jacques, qui a fait sale comble, si je puis dire, et au cours de laquelle il y avait ce fameux témoignage du Père René-Luc, un temps d'adoration animé par les chorales interscouts et de l'Immaculée, donc des jeunes de Pau qui chantaient à quatre voix des chants magnifiques, qui nous ont aidés à prier, et puis l'illumination de l'église Saint-Jacques par un mouvement qui s'appelle Calalumen, et qui propose, avec des bougies, il y avait 1000 bougies là, une illumination des édifices qui aide aussi à entrer dans le mystère, hein, de la rencontre avec le Seigneur. Et puis enfin, la messe du dimanche, qui a rassemblé pas moins de 1000 personnes, dans l'agora de cet institut Saint-Dominique, qui nous avait accueillis si généreusement pour ces 3 jours, malgré une pluie torrentielle, il y avait 1000 personnes et des visages jeunes, beaucoup de familles de tout le diocèse, sans doute davantage de façon paloise, mais de tout le diocèse, des gens de la côte basque qui avaient bravé la tempête et les kilomètres pour venir nous rejoindre. Et c'était aussi un moment très fort que ce rassemblement dominical.
Dans l'éditorial de la revue diocésaine au mois de juin, vous-même vous dites une participation concernant le bilan, une participation contrastée.
Oui, contrasté. Oui, je pense que c'est vrai que j'en attendais un peu plus dans la mesure où j'avais, avec mes collaborateurs, pensé que c'était une formidable opportunité pour, à l'aide d'initiatives missionnaires qui nous étaient partagées d'ici ou d'ailleurs, hein, nous-mêmes. Dans nos communautés, dans nos services, réfléchir à là où nous en sommes de l'évangélisation et quels moyens nous pouvons, en fonction des réalités diverses et variées constituées par nos paroisses et nos communautés, et des forces en présence, ici ou là, eh bien, engager un dynamisme missionnaire que tous recherchent et tous essaient quand même d'engager là où ils sont. Et je pensais que j'avais même demandé qu'il y ait une délégation de chaque paroisse qui soit présente pour justement prendre acte de ça et ensuite, dans les conseils pastoraux, en discuter pour voir quelles perspectives cela pouvait ouvrir dans nos communautés paroissiales pour passer, comme dit le pape François, hein, qui nous appelle, comme vous le savez, à la suite de ses prédécesseurs, mais lui de manière toujours un peu plus, directe, à une conversion pastorale, c'est-à-dire d'une pastorale de l'entretien et de la conservation, qui restera toujours nécessaire et indispensable, et il ne s'agit pas de le considérer de manière péjorative, à une pastorale d'évangélisation, hein, pour rejoindre avec ce message de l'Évangile, dont nous avons la conviction qu'il est, comme dit le pape François aussi, pour tous, parce que l'Évangile nous rappelle que nous sommes tous créés pour ce que l'Évangile propose, c'est-à-dire l'amitié de Jésus et l'amour fraternel, et comment on peut passer d'une pastorale de l'entretien à une pastorale d'évangélisation. Qui reste le défi sur lequel je partage avec tous les conseils pastoraux que je rencontre dans mes visites pastorales. Je rappelle que j'en suis arrivé à la 65e visite pastorale du diocèse, donc je commence à avoir rencontré beaucoup d'acteurs de la mission dans notre diocèse. Alors c'est vrai que j'ai vu des paroisses qui ont joué le jeu, et c'était magnifique de voir des paroissiens de base qui venaient vraiment dans cet esprit. Je pense à la paroisse de Morlas, de Mazères-le-Zon, Oloron, Cambeau. Enfin bon, il y a eu des représentants comme ça, des paroisses qui certainement ont pu capitaliser des choses pour transmettre et porter la réflexion. Mais c'est vrai que la participation du samedi était de 250 personnes à tout casser. Ce qui, m'a-t-on dit, de ceux qui ont déjà reçu ce forum communion évangélisation est déjà une bonne chose pour la première fois. Enfin bon, moi j'en attendais un peu plus. Et 400 le dimanche après-midi, à la suite de la messe. Mais c'est vrai que le temps, là, le dimanche, n'était pas tout à fait porteur.
Est-ce que ce... Il n'y a pas un problème de date, peut-être. Est-ce que le mois de mai est un mois opportun, alors qu'il y a tellement d'événements dans l'Église, les communions, ouais, les fêtes de Dieu? Est-ce que...
Ça, c'est vrai. Je m'en accorde. Je me suis rendu compte, en effet, qu'il y avait pas seulement des gens qui voulaient pas venir, parce qu'ils voulaient pas venir à ça, bon, bah, ça les regarde, mais aussi parce qu'il y avait aussi beaucoup d'autres événements. C'était aussi le pèlerinage militaire international à Lourdes, non loin de Pau. Il y avait des communions, comme vous dites, il y a des professions de foi, bon. Et c'est sûr que c'est pas forcément le meilleur mois où les gens circulent beaucoup plus. Et donc, bah, sans mauvaise volonté de leur part, peuvent pas participer à un tel événement. Donc, c'est une chose dont il faudra prendre acte, en effet, l'année prochaine.
Et alors après,
pour un autre événement de ce type.
Et alors après, qu'est-ce qui va se passer?
Ben, le but, c'est, si vous voulez, on a, je crois, pour que le maximum de personnes puissent profiter de l'événement, le site internet a déjà diffusé pas mal de choses, les conférences, les tables rondes, et moi je crois qu'il est important que les conseils pastoraux paroissiaux puissent se ressaisir avec leurs prêtres de tout ce capital d'informations, de débats, d'échanges d'expériences, pour pouvoir voir comment ça peut faire avancer les choses, nous donner des idées à concrétiser dans nos communautés.
Justement, vous parlez des conseils pastoraux de paroisse, mais vous venez de mettre en place le conseil pastoral diocésain. Alors, il y a eu une première rencontre le 2 avril, il y en aura une prochaine le 2 juillet. Ça sera peut-être l'occasion de donner
Parce que bon nombre des membres du conseil pastoral diocésain étaient présents au forum, en tout cas se sont relayés. Nous avions le 2 avril, d'une manière très riche, porter la discussion sur, à partir d'une question d'ailleurs d'un des membres du conseil pastoral diocésain, sur l'évangélisation des périphéries, hein, comment rejoindre les périphéries, avait demandé une des membres de ce conseil, et ça avait donné l'occasion d'un échange extrêmement riche et qui avait stimulé d'ailleurs pour une participation au forum. Et donc je pense qu'on va effectivement revenir sur le forum et voir comment eux-mêmes nous disent ce qu'ils en ont retenu et comment ils voient qu'on puisse ouvrir quelques pistes ou donner quelques orientations pour l'avenir.
Alors à quoi ça sert un conseil pastoral diocésain ?
Comme tout conseil, c'est un ensemble de personnes qui sont réunis de manière institutionnelle pour donner des avis à l'évêque. Quand il s'agit d'un conseil pastoral diocésain composé en grande majorité de fidèles laïcs, qui sont d'ailleurs de différentes secteurs du diocèse, mais aussi différentes professions, sensibilités pastorales, d'engagement dans l'Église, d'âges différents, hein, entre des gens qui ont 30 ans et des gens qui ont 70 ans. Et ben, c'est un conseil qui est à même de donner des avis à l'évêque, à reprendre avec le conseil épiscopal et à certains moments avec le conseil presbytéral, pour les orientations pastorales de notre vie diocésaine.
Radio La Pour Dire à Tia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Nous retrouvons Monseigneur Marc Caillé, notre évêque. Alors, vous nous aviez parlé des visites pastorales. Vous nous avez dit finalement, il vous reste 4 paroisses à visiter, c'est ça?
Quasiment.
69 paroisses et vous en avez fait 65.
Voilà, une fois que j'aurai visité Saint-Jean-le-Vieux, donc du 15 au 19 juin, il me restera encore 4 paroisses, je pense, à visiter. Voilà, je poursuis cette rencontre. Pour moi, c'est très important parce que, comme vous l'aurez remarqué, dans ma première lettre pastorale, qui date déjà de 2010, j'ai donné quelques pistes, quelques orientations pastorales. Je n'ai pas eu la prétention, et je n'ai toujours pas la prétention, et ni la volonté, de donner au diocèse un projet pastoral unifié. Je crois que le temps des projets unifiés est dépassé. On le voit bien dans l'Église universelle, on le voit bien d'une certaine manière en France. Je n'ai pas jamais entendu qu'on ait cette velléité au niveau de la Conférence évêque de France, et je pense que c'est vrai d'un diocèse aussi. Avec les urgences missionnaires d'aujourd'hui, la croissance de ceux qui ne se sentent plus concernés par la vie de nos communautés, le vieillissement aussi de nos cadres, je sais bien que c'est difficile que c'est une cause de souffrance, mais qu'il faut bien constater, vrai du côté des prêtres comme du côté des laïcs, hein, qui sont tous engagés ensemble dans la mission, et je crois que j'y suis très attentif, en particulier dans les visites pastorales où je vais à la rencontre des communautés, eh bien l'urgence de la mission fait que on peut pas imaginer un plan pastorale qu'on va plaquer sur la vie des paroisses de manière uniforme. Vous voyez, moi, quand je vais faire une visite pastorale, je suis d'abord attentif à reconnaître les réalités en présence à travers les rencontres avec ceux qui sont engagés dans l'Église de manière personnelle, à travers les assemblées liturgiques, mais aussi à travers les groupes constitués. Hein, d'abord le conseil pastoral, paroissial, l'EAP quand elle existe, le conseil paroissial des affaires économiques, et puis des groupes de prière, des bénévoles, hein, tous ceux qui sont engagés, qui dans la liturgie, qui dans la catéchèse, qui dans la diaconie, etc. Mon premier souci, c'est de reconnaître, vous voyez, c'est un acte de reconnaissance, qui est pas seulement de constater les forces en présence, mais de reconnaître aussi le travail qui se fait, la générosité, l'engagement, et qui fait forcément et qui force forcément mon admiration de pasteur, et je crois que je suis très attentif à ça. Ensuite, c'est d'aider les communautés, toujours plus, mais ça c'est de la mission de l'évêque d'aujourd'hui comme de tous les temps, à recentrer la vie paroissiale sur la vie intérieure, la relation avec le Christ, hein, donc sur cette relation de la foi, hein, qui nous relie au Christ, d'insister aussi sur des éléments de discipline liturgique et sacramentale. Et ensuite, d'inviter, d'encourager à des orientations résolument missionnaires. Hein, c'est vrai que c'est un peu le leitmotiv de toutes les visites pastorales, et où je n'apporte pas des solutions, où j'aide à la réflexion, où je suscite un intérêt. Dans plusieurs paroisses, une chose qui me revient sans cesse, c'est de dire, mais comment nous ressuscitons ou nous ressuscitons, hein, c'est le même mot, l'intérêt pour ce que nous vivons dans notre foi et dans nos communautés chrétiennes auprès de ceux qui se sont éloignés, qui ne se sentent pas concernés parce que la vie les a pris autrement. Nous sommes en effet dans un monde sécularisé qui vit en effet souvent comme si Dieu n'existait pas.
Alors vous étiez du 27 avril au 1er mai à Biarritz. J'allais dire un peu chez vous, parce que c'est les prêtres de la communauté Saint-Martin.
Oui, alors évidemment, c'est toujours plus difficile. Oui, j'ai visité cette paroisse. C'est important au bout de 4 ans, je crois qu'ils sont dans leur 4e année, de visiter une paroisse qui était confiée à la communauté Saint-Martin, donc il y a maintenant un peu plus de 3 ans, presque 4 ans, et de voir comment la mayonnaise prend. Hein, j'étais curieux de voir si ces prêtres qui ont des exigences de vie communautaire, qui ont aussi un look plus identifié sans doute que d'autres, qui travaillent vraiment en équipe, comment ces prêtres ont appréhendé cette communauté paroissiale, comment ils travaillent avec les fidèles laïcs, comment ils sont présents à leur peuple, hein, comme dit souvent le pape François, il faut que le pasteur sente l'odeur de ses brebis, hein, comment ils sont vraiment au cœur même de leur communauté. Et j'étais, je dis pas agréablement surpris, mais j'étais bien impressionné de voir d'abord l'osmose qu'il y a maintenant au bout de 3 ans entre les fidèles engagés, d'ailleurs pour la plupart qui étaient déjà engagés dans la paroisse, même s'il y a forcément du renouvellement quand il y a un changement de curé, c'est déjà vrai. Alors quand on passe d'un curé à une communauté aussi typée, si je puis dire, c'est forcé aussi. Mais j'étais bien impressionné de voir que beaucoup de gens engagés, en particulier dans la pastorale des jeunes, dans la catéchèse, dans la liturgie, dans les services d'ouverture, de fermeture des églises, etc., étaient toujours présents et répondaient toujours présents, à part un ou deux qui ont peut-être quitté. Le conseil pastoral était renouvelé au bout d'un an, même s'il y en a certains qui étaient déjà dans le conseil pastoral qui sont restés, toute l'équipe de communication n'a pas changé, hein, tout ça, et j'ai pu rencontrer tout ce monde-là, et j'étais bien impressionné par le fait que il y a une belle osmose avec les prêtres, que les prêtres sont vraiment présents au cœur de leur peuple. Ils vont visiter les malades, ils sont présents dans les maisons de retraite, ils sont présents aux aumôniers de jeunes, mais comme prêtres, parce que les aumôniers sont des laïcs, et il y a d'ailleurs une très belle co-responsabilité. J'ai rencontré le conseil pastoral et j'ai vu que c'était vraiment un lieu d'écoute, de partage. J'ai même fait parler les uns les autres, qui disent qu'ils peuvent parler librement aussi. Et j'ai vu des initiatives aussi de laïcs qui sont partie d'eux, soutenue par les prêtres, comme une petite association pour les chrétiens de Syrie, là, qui s'est constitué et avec qui nous avons eu une belle rencontre. Aussi une initiative d'un jeune chef d'entreprise pour aider dans le cadre du presbytère de Saint-Joseph, où il y a un espace un peu dédié, pour aider des jeunes chefs d'entreprise à fonder des entreprises, même s'ils n'ont pas de lien avec l'Église, mais qui créent un lien avec l'Église. Tout un groupe, une fraternité Saint-Vincent de Paul qui s'est créée aussi, donc au service des précarités, bon, bah, qui est accompagné aussi par les prêtres. Donc là, j'ai été plutôt bien impressionné par cette... voilà, je pense que la mayonnaise prend, voilà, c'est ça que je veux dire.
Un mot sur la visite pastorale à Puyot, très rapidement.
Puyot, c'est tout à fait un autre contexte, c'est un curé qui est tout seul, c'est beaucoup plus rural, évidemment, mais là aussi, ben, j'ai vu des jeunes familles qui sont comme des recommençants, qui s'engagent dans la vie de l'Église, de la communauté. Alors, c'est beaucoup plus petit, hein, c'est beaucoup plus modeste, mais voilà, j'ai senti aussi qu'il y a un engagement qui prend dans la paroisse, avec une attention au rassemblement et au temps de prière, qui aussi donne une source, hein, à l'activité pastorale. Et bon, tout ça est en construction.
Le 24 juin, vous invitez les prêtres jubilaires du diocèse à une messe, comme chaque année, à la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne. Ce sera aussi l'admission des jeunes du séminaire.
Voilà, alors donc c'est d'abord l'action de grâce pour des prêtres jubilaires de notre diocèse, donc quatre prêtres, donc c'était une année faste, qui célébreront leurs 25 ans de sacerdoce, leur jubilé d'argent. Donc c'est quand même important à souligner, parce que les dernières années, c'est souvent un prêtre, deux prêtres maximum. Là, en 91, ils étaient quatre. Donc, et puis ensuite, il y a les 50 ans, les 60 ans, les 65 ans, les 70 ans aussi. Donc c'est magnifique de pouvoir valoriser la fidélité des prêtres dans leur mission pastorale, qui célèbrent aussi la fidélité de Dieu dans leur vie, et donc de cette complicité entre un prêtre et le Seigneur qui l'a appelé et qui l'a envoyé dans des ministères divers et variés, mais toujours avec le même élan et le même enthousiasme. Et c'est non seulement très important pour aider les fidèles à manifester leur reconnaissance et leur affection pour leur prêtre, surtout dans un contexte aujourd'hui où la figure du prêtre peut être un peu dévaluée dans l'opinion publique, mais c'est aussi important pour les séminaristes qui participent évidemment à ces célébrations jubilaires, eh bien, de pouvoir regarder vers leurs aînés, leur fidélité au ministère. Et c'est pourquoi on choisit aussi cette date, cette messe jubilaire, pour l'admission comme candidat au sacerdoce cette année de deux séminaristes, donc Dominique Nguyen et Guillaume Dargoubet.
Donc rendez-vous le vendredi 24 juin, c'est à 10h30.
C'est à 10h30.
À la cathédrale de Bayonne, ça d'ailleurs sera retransmis en direct sur notre antenne. Un mot, Monseigneur Hayé, sur cette fin d'année pastorale, si on fait un petit retour en arrière sur tout ce qui s'est passé dans notre diocèse. On se rappelle que vous n'avez pas été épargné. Il y a eu la tempête médiatique suite à votre tweet du 12 janvier. Il y a eu l'histoire du carnaval à Saint-Jean-de-Luz. Bon, il y a eu les affaires de l'affaire de pédophilie à la fin du mois d'avril. J'avais envie de vous demander comment vous arrivez à tenir le coup, parce que vous en recevez quand même pas mal de coups. Vous êtes un homme, comme tous les hommes. Alors comment vous vivez tout ça ?
Bon, ben c'est sûr que c'est pas forcément facile. Je dois en prendre aussi acte moi-même, comme je l'ai fait d'ailleurs à travers une lettre que j'ai adressée au diocésain après la fameuse affaire du tweet. Ça me donne aussi de tirer des enseignements, bien sûr, hein, sur la manière de communiquer. Et bon, même si sur les prix, vous savez bien que je suis obligé de rester ferme, hein, sur la défense de la vie, des plus petits, des plus vulnérables, des plus innocents, en essayant de trouver la manière qui soit la meilleure. Mais pour revenir à votre question, c'est vrai que prendre des coups, c'est jamais facile, mais je sais que ça fait partie aussi de la mission du prêtre, de l'évêque, du chrétien, hein, que quelquefois de rencontrer l'opposition, l'hostilité, et on est bien amené et appelé aussi à prendre notre part de souffrance dans l'annonce de l'Évangile. Donc, où est-ce que je puise ma force et ma paix, finalement, hein, même si c'est quelquefois pas facile à porter? Ben d'abord dans la prière, hein, parce que je crois que ça, c'est le trésor de la vie du prêtre et de l'évêque, que d'être d'abord enraciné dans la prière, hein, d'être en contact avec le Seigneur. aussi mon entourage, parce que je suis quand même entouré, soutenu par mes proches collaborateurs, hein, il faut pas l'oublier, même si quelquefois bah, ils sont égratignés eux-mêmes hein, par les initiatives qu'un évêque peut prendre, et aussi bah, parce que je vois bien qu'il y a aussi un grand soutien de la part de beaucoup de fidèles, du diocèse même d'ailleurs, mais et de prêtres qui m'apportent aussi le soutien de leurs prières. Combien de fois, depuis des mois, il n'y a pas un jour ou il n'y a pas un dimanche où je vais dans une paroisse, quelle qu'elle soit, où je n'ai pas des paroissiens qui viennent me voir en disant « on prie pour vous, on prie pour vous, on prie pour vous ». Donc je pense qu'il y a aussi un beau réflexe de rassemblement et de communion, même si on n'est pas forcément toujours d'accord, d'ailleurs, avec les positions que l'évêque peut prendre, avec l'évêque, le pasteur du diocèse.
Est-ce que vous n'avez pas des fois le sentiment d'être incompris même par des fidèles du diocèse ?
Bien sûr, j'ai forcément le sentiment parfois d'être incompris par certains prêtres et certains fidèles, mais justement, c'est à moi d'essayer de voir comment est-ce que je dois aussi entrer en dialogue avec eux, et puis ajuster aussi ma manière d'exercer mon ministère, et en particulier dans l'ordre de la communication.
Pour terminer, Monseigneur, un mot sur cet été. Il y aura bien sûr les JMJ en Pologne avec tous les jeunes de notre diocèse et puis le pape qui sera là-bas aussi à Cracovie.
Oui, c'est comme bien sûr. Je vais accompagner donc la délégation d'à peu près 200 jeunes de notre diocèse qui va se rendre d'abord à Sandomierz pour la semaine qui précède la semaine proprement des JMJ à Cracovie, qui est le diocèse de deux prêtres fidei donum de notre diocèse, hein, Camille Meyer et Shimon Brodowski. Et donc je les accompagnerai, je partirai même en bus avec eux, je crois qu'on a pas mal d'heures de route juste pour rejoindre Cracovie, mais je partirai en bus avec eux pour être vraiment avec eux le plus possible, et je serai moi-même, d'ailleurs j'ai été retenu comme évêque catéchiste, donc je donnerai aussi 3 catéchèses pendant les jours qui précèdent immédiatement la rencontre avec le Saint-Père.
Est-ce qu'il y aura des temps forts d'évangélisation comme les autres années à Bayonne?
Alors, il y aura Agour Maria qui rassemblera ceux qui ne partiront pas au JMJ, et qui pendant les fêtes de Bayonne, bien comme maintenant traditionnellement, tâcheront de sillonner les rues l'après-midi pour partager leur foi avec les jeunes qu'ils pourront y rencontrer.
Est-ce que vous prendrez du repos cet été?
Je prendrai du repos. Je crois que c'est très important que je prenne du repos aussi pour le repos de ceux qui m'entourent et de mes diocésains. Donc je prendrai une petite quinzaine de jours après le 15 août chez mes vieux parents en Bretagne, hein, puisque c'est la terre de prédilection de mes racines familiales.
Merci beaucoup, Monseigneur Marc Caillé. Merci à tous les auditeurs de nous avoir suivis et très bon été à tous. Merci.
Shema Israël. Audi Israël. Écoute Israël. Ensun Israël. Escute Israël.
Monseigneur Marc Caillé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.